Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h40, dans un instant, le petit déjeuner de l'actu. Françoise de Goa, Éric Revel, Elisabeth Lévy, vos appels, hein, comme tous les matins, 0826 300 300. En attendant, c'est Benjamin Glaise. Qu'est-ce qui fait parler ce matin, Éric de presse?
Oui, forcément, c'est le visage du 46e président des États-Unis qui fait la une de beaucoup de vos journaux ce matin après son investiture, hein, Benjamin.
Et notamment de Sud-Ouest qui titre « L'Amérique de Joe Biden ». Hier, il a prêté serment au cours d'une cérémonie sans public et sans la présence de Donald Trump, son prédécesseur. Une nouvelle ère a commencé, porteuse de changements pour l'Amérique, mais aussi pour le monde, l'Europe et la France, écrit Sud-Ouest. Et ça commence avec le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Le rêve d'unité de Joe Biden, ça c'est pour le Figaro qui revient sur le discours du nouveau président. Il a notamment exhorter les Américains à se réconcilier autour des valeurs de démocratie et de vérité. Toute mon âme est dans cet objectif, assure Joe Biden. Un objectif ambitieux dans une Amérique divisée, d'où le good luck, bonne chance, lancé ce matin par Midi Libre à destination du nouveau président des États-Unis.
Oui. Autre sujet qui fait la une ce matin, le désarroi des stations de ski, hein, des professionnels de la montagne.
Oui, un désarroi symbolisé par la photo d'un télésiège vide dans la Provence et ce titre « Quand te reverrai-je » référence aux bronzés font du ski. Une question qui se pose alors qu'on a appris hier soir que les remontées mécaniques resteront donc fermées en février. C'est le scénario catastrophe, écrit la Dépêche de Midi, pour des stations de ski qui ne voient pas le bout du tunnel. Des stations remontées, bah oui, dans tous les sens, à la une de la montagne. Le secteur s'oriente vers une nouvelle, en tout cas vers une saison blanche, a annoncé hier soir le secrétaire d'État au tourisme. Alors, en Auvergne, eh bien, les élus et les professionnels du massif du Sancy ont réfléchi à une nouvelle stratégie pour sauver la saison. Il la dévoile d'ailleurs aujourd'hui à Clermont-Ferrand.
Oui, bah on va les voir aussi, tiens, du côté des massifs alpins et puis dans les Pyrénées. Comment on réfléchit justement à cette nouvelle stratégie? On sera avec le directeur de la station de ski de Peyragudes, hein, tout à l'heure à 9h, qui sera avec nous. Alors, ça fait un an que j'ai perdu ma vie. C'est un témoignage bouleversant qui est dans le magazine Le Point cette semaine.
Oui, celui de 2001, un témoignage bouleversant et très, très fort, hein, accordé par cet ado de 17 ans dont la vie a basculé en janvier 2020. Souvenez-vous, hein, sa vidéo postée sur l'islam enflammait alors les réseaux sociaux, bunkerisée depuis comme les journalistes de Charlie Hebdo. Elle se confie sans filtre. Peut-être qu'il n'y a pas la charia en France, mais la mini-charia, elle, est bien là. Mila s'en prend aux jeunes d'extrême gauche, de son âge aussi, pour lesquels, dit-elle, je suis le grand méchant loup. Quand dans son isolement forcé face aux menaces, elle prononce ces mots terribles. Le Covid a presque été une source de réconfort, car tout le monde est dans le même bateau que moi. Interview donc à retrouver cette semaine dans Le Point.
Oui, bon, on y reviendra peut-être dans quelques minutes avec Elisabeth Lévy et Françoise de Goa. Merci à vous, Benjamin Glaise. On continue notre tour de France de la presse, hein, que ce soit la presse magazine ou les journaux, les quotidiens. Et nous sommes avec Nicolas Rebière, directeur de la publication de La République des Pyrénées. Bonjour Nicolas.
Bonjour, bonjour à tous.
En une, ce matin, de la République des Pyrénées.
Alors, évidemment, on consacre un dossier sur cette saison de ski qui paraît compromise, mais on avait fait un papier déjà la veille, et les gens des stations de ski béarnaises s'attendaient en fait à ce coup de massue, et eux aussi réfléchissent à comment dire, à comment traverser une saison très particulière, parce que c'est très très comment dire, c'est paradoxal. Vous pouvez aller à Gourette, vous pouvez aller à la Pierre Saint-Martin le week-end, vous avez beaucoup de monde. Alors ce sont des gens, beaucoup de la région, hein, du Béarn, parfois de Bordeaux, et on se met tous, et ça on vous le racontera plutôt demain d'ailleurs, à la raquette, au ski de rando, je m'y suis mis, moi c'est le week-end dernier d'ailleurs. Et évidemment, ça chamboule un peu une économie montagnarde là qui paye très cher les frais de la crise sanitaire. Ouais. En une, aujourd'hui, nous on a choisi plutôt de raconter l'expérience que mène la ville de Pau, qui s'est inspirée d'ailleurs de Marseille, des sapeurs-pompiers, des marins-pompiers de Marseille, et qui a décidé désormais d'aller dans les égouts, près des EHPAD et des maisons de retraite de la ville, pour aller tester les eaux usées. Oui. En effet, ça permet de repérer le virus et la ville. Hein. Ça permettra aussi de prévenir des clusters dans ces lieux particulièrement touchés aussi par la crise sanitaire, puisque on raconte également dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a une surmortalité notamment chez les plus de 75 ans. Elle est frappante, elle est flagrante. Les chiffres de l'INSEE sur la surmortalité en France en 2020 nous le montrent et on le détaille également.
Oui, c'est vrai. Et puis il y a une réouverture un peu particulière d'un resto également.
Alors voilà, on a été chez, vous connaissez pas Patrick ou Cécile, mais je vous y inviterai si vous êtes dans le coin.
Bah oui.
chez Courbet à Sévignac.
Non.
Rien que pour leur magret de canard.
Oh. Je dis oui.
Sur pomme de terre, franchement, ouais. Ça vaut le coup.
Ouais. C'est leur adresse.
Ils ont rouvert, là. Ouais, l'invitation est lancée.
Non, mais moi je suis de là, mon cher ami. Je suis d'à côté.
C'est de quoi.
Je suis d'Argelès-Gazost, moi. Attendez, voilà.
J'ignorais que vous étiez de là-bas.
Elle est de partout, hein.
Ah non, mais je suis né à Tarbes, moi. J'ai appris à skier à Gavarnie.
Attendez.
Comment elle est en train de me piquer ma place?
Bon. Nicolas, oui. Alors, allez-y, oui.
Justement, il y a beaucoup de place, puisque hier, par exemple, ils étaient ouverts pour 4 ouvriers du bâtiment. En fait, c'est une initiative de la Fédération départementale du bâtiment 64 qui a conclu un accord en fin d'année dernière avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour que les restaurants rouvrent uniquement pour les ouvriers du BTP afin qu'ils ne mangent pas leur gamelle, on va dire, sous la pluie glaciale, puisqu'il a fait très froid là depuis le début de l'année. Le préfet a dit OK, et donc il y a une quarantaine de restaurants qui ont rouvert uniquement pour les ouvriers du bâtiment sur inscription et en présentant leur carte professionnelle, ce qui donne un peu de baume au cœur à ces restaurants qui sont fermés depuis maintenant depuis des mois,
octobre. En quelque sorte, ils se transforment un peu en resto d'entreprise, quoi.
C'est ça. Je peux dire. Le principe, c'est que ça devient des restaurants d'entreprise uniquement réservés aux ouvriers du bâtiment. Vous savez que les préfets dans les départements avaient déjà, dès le mois d'octobre, autorisé quelques restaurants. Il y en a 3 dans les Pyrénées-Atlantiques pour les routiers, parce que les routiers, pendant le premier confinement, ont mangé froid et dans leur cabine pendant des mois, quoi. Et donc là, c'est une autre, c'est une première hein, en France
pour
c'est
le BTP.
Une autre dérogation pour le BTP que l'ouverture de ces restaurants.
Alors, si vous n'êtes pas dans le BTP, que vous êtes un commercial et que vous passez à côté, est-ce qu'on vous laisse rentrer ou pas?
Eh ben non, il faut s'inscrire. Ça n'est qu'une convention qui est signée entre la Fédération du BTP et les restaurants, et il faut une carte professionnelle de travailleur du BTP.
Merci.
Peut-être que d'autres dérogations seront accordées. En tout cas, c'est plutôt une bonne idée.
Oui, non, mais c'est vrai. Il y a déjà quelques semaines, hein, Nicolas Robillard, du côté d'Avignon, on avait vu cette expérience où là, il y avait des tournées qui étaient organisées par les restaurateurs pour aller aussi apporter à manger en fait aux ouvriers du BTP. Ils avaient mis ça au point. On en avait parlé. Et vous avez raison, Nicolas aussi. C'est vrai que les restos pour les routiers rouvrent progressivement un peu plus. En tout cas, il y en a un peu plus. On était en dehors l'autre jour, où on nous racontait qu'il y en avait davantage.
Et un
que
peu de convivialité.
Ça permettait aussi pour eux de prendre le petit déjeuner en fait, le matin, de prendre une douche aussi bien souvent, parce que sur les aires de repos, c'est pas simple et il fait quand même un peu froid. Hein. D'un mot, Nicolas, l'expérience, alors, c'est de la raquette que vous avez fait ou c'est du...
La rando.
Du ski de rando.
Comme les paniers et les tire-fesses sont fermés, vous montez vous-même et à ski. Ouais. Il vaut mieux avoir de bonnes jambes et un bon souffle.
C'est vrai. On en parlera avec le directeur de la station de ski de Péragude dans les Hautes-Pyrénées tout à l'heure et qui sera en direct avec nous.
Comme ça, vous porterez mes skis. Parce
absolument,
que
c'est vrai. Restez avec Merci,
nous.
Nicolas.
Tout de suite, le petit déjeuner de l'actu. Ça sert à ça, un binôme, Françoise de Gouaxou, je vous dis.
Moi, j'adore. Présidente et vice-présidente.
Voilà,
c'est vous la patronne, en fait.
C'est moi. Vous avez vu les galons que j'ai sur les trucs. C'est moi qui décide. En fait, je lui fais croire que c'est lui. En fait, c'est moi. C'est comme dans un vieux couple.
Parmi les sujets qui sont à la une ce matin, alors on a beaucoup parlé de l'investiture de Biden et puis Trump. On va peut-être pas y revenir. En fait, maintenant, on va attendre de voir ce que ça donne.
Il y a juste un truc intéressant peut-être à dire qui vient de la chronique de notre cher Walter, c'est de se demander pourquoi, c'est vrai, hier, si vous voulez, vous allumiez une télé à n'importe quelle heure de l'après-midi, vous aviez l'impression que vous auriez été en Amérique, que ça aurait été pareil, en fait. Vous voyez, c'est tout.
Sur les chaînes d'info,
Et donc, c'est quand même, ça pose des questions, je trouve, intéressantes.
Les chaînes d'info, ça représente quand même 5% simplement des gens qui regardent la télé. Hein, donc, faut pas non plus... Nous, on est en boucle autour de ça, mais bon, heureusement, il y avait autre chose. Elisabeth Françoise, il y a quand même ce casse-tête là de la vaccination, hein, parce que on était avec des élus ce matin, que ce soit du côté de Bordeaux, que ce soit du côté de l'Aude en zone rurale, où la logistique ne marche pas, quoi. Mais c'est parce qu'il y a une pénurie de doses, quoi. Ouais, ça arrive doucement, quoi.
Elisabeth. Moi, juste, je ne veux pas être cruel,
Sous-entendriez-vous que j'ai volé une dose ?
Non, non, si, rendez les doses, Elisabeth, immédiatement, voilà. Je suis sûr que c'est vous. Non, non, mon problème, à moi, c'est l'opacité, en réalité, sur la gestion. Nous ne savons pas, malgré ce qu'on nous dit, dans le détail, combien nous avons de doses, comment elles sont distribuées. L'Italie a eu le même nombre de doses, l'Allemagne aussi. Aujourd'hui, les Italiens vaccinent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont déjà à 1 300 000. Les Allemands également.
Nous, on est à combien ? On est à 500 000.
Quand Olivier Véran s'envoie des satisfecits sur le mode « Tout va très bien, Madame la Marquise », qui est, je pense, la chose la plus insupportable, au-delà même des carences de la vaccination, c'est cette morgue habituelle, genre « on fait tout bien et même mieux que les autres », c'est faux. Quand il dit « finalement, on arrivera au même résultat à la fin du mois », mais non. D'abord, on ne rattrapera pas les autres et on a perdu du temps. Et le problème de la perte de temps, et quand vous en parlez avec les virologues, il est là, c'est que le virus, plus il mute, plus il mute, en fait. Et donc, il faut le harceler de manière à ce que les mutants, c'est horrible, j'ai l'impression, oui. Mais en tout cas, ne s'installe pas. Donc, on a vraiment perdu beaucoup de temps. Et je redis, moi, il y a une opacité. Ouais. Je voudrais que des journalistes enquêtent, et je crois que c'est le cas, en tout cas, les journalistes étrangers le font, sur les bordereaux de commande de la Commission européenne. Comment ça s'est passé avec Pfizer ? Comment ça s'est passé avec la France ? Combien de doses exactement ? Il y a une opacité générale. Ouais, bon. C'est hyper important. Oui. Parce
Elisabeth.
À toi.
Oui, moi, je vais... mais c'est pas que je sois en désaccord avec quoi que ce soit, mais je pense une chose, c'est que si on fait ça pendant... La campagne va durer 3 mois ou 4 mois. Et à l'évidence... tous les défauts qu'on a vus sur tout le reste vont réapparaître, administration à la fois bureaucratique et inefficace, informations qui passent mal, parce qu'en plus là il y a une multiplicité d'acteurs, donc avec des systèmes informatiques je pense qui doivent être à l'ouest, mais on va devenir fou si vous voulez, donc je crois, moi, parce que j'ai l'impression qu'on, on peut dire ça, c'est pas du tout que c'est faux. Mais si on fait ça pendant des mois et des mois, je veux dire, on va devenir fou. Donc voilà,
je propose. Je suis assez d'accord, hein, mais vraiment, Elisabeth, sur le fait que. Sur le fait qu'on devient quand même tous barjots, je pense que vraiment, non, objectivement, là,
Moi, je voudrais parler des stations de ski. On sera avec un directeur de station de ski. C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. Là, comme Françoise, on nous annonce des nouvelles apocalyptiques, les variants partout, etc., etc., les mutants de Françoise. Donc, il y a deux solutions, si vous voulez. Soit, effectivement, on accepte d'avoir une année blanche, pas seulement pour les stations de ski, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, finalement, on dit on arrête tout, etc., etc. Soit, à un moment, si vous voulez, on va vraiment essayer de vivre, c'est-à-dire... de pratiquer le plus possible les activités les moins risquées. Ça ne veut pas dire qu'on fera zéro contamination, mais si vous voulez, si on n'arrive plus à arbitrer du tout, effectivement, pour le coup, on va... Moi, je ne comprends même pas qu'on nous parle d'un troisième reconfinement, parce qu'à l'évidence, et je ne dis pas ça pour moi, je fais partie des privilégiés pour qui c'est très facile à supporter, vu qu'on travaille normalement, par exemple. Donc, et qu'on peut bouger. Ouais. Donc, mais il y a des gens qui vont vraiment péter un câble.
Moi, c'est déjà arrivé.
Je suis absolument d'accord avec Elisabeth. Moi, j'ai beaucoup évolué sur la question. Au début, j'étais pour des choses. Mais là, les stations... Moi, je viens de la vallée d'Argelès-Gazost, dans Gavarnie, Cotteret, etc. Tous mes copains d'enfance, ils sont guides, ils sont moniteurs de ski, ils sont pisteurs. C'est le chômage, il n'y a plus rien. Vous ne savez même pas si vous n'avez pas des stations qui vont mettre la clé sous la porte. Ouais. C'est complètement délirant. Et on s'agglutine dans les supermarchés et dans les magasins pour faire les soldes. Deuxième point hyper important, il y a beaucoup de pays qui ne confinent pas, je le redis.
En
Italie, ça n'est pas confiné dans 8 régions.
En Espagne, les restaurants sont ouverts.
Moi, samedi, j'étais à Rome, j'ai déjeuné en terrasse. Ouais, voilà. Ouais. Il y a 8 régions en Italie, bah oui, je sais. J'en ai profité, j'ai passé mon temps sur les terrasses.
Quel privilégié.
Non, mais je veux dire par là qu'il y a d'autres moyens de faire.
C'est vrai. Bon, une précision de monsieur Chiffre, Éric Revel, 783 000 vaccinés à 8h55.
Oui, mais
c'est le chiffre très précis d'Éric Revel.
C'est les chiffres de santé.
Il les compte un par un.
Ça va leur permettre mettre. Allez, Françoise,
on est un
raison,
peu serré. Laissez de la place, laissez de la place en fait aux auditeurs. Heureusement, 0826 300 300.
On nous appelle du Gard. Et c'est Frédéric. Bonjour Frédéric. Bienvenue.
Et bonjour tout le monde. Bon. Bonjour aux auditeurs.
Bonjour.
Oui, Frédéric. On vous écoute sur l'actualité, en fait, vous, ce matin.
Bah écoutez, là, moi, ce qui me choque le plus, c'est le port du masque. Quoi, le port du masque? Les étudiants qui sont obligés de rester chez eux, isolés, et qui ne peuvent plus voir personne, qui sont en détresse psychologique. Là, pour moi, c'est un sujet de santé publique, parce que notre jeunesse, c'est notre avenir, et sans jeunesse équilibrée au niveau psychique, on va avoir du mal à affronter cet avenir. Mmh. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur le port du masque en Allemagne, sur 25 000 enfants. Mmh. Donc, vous pouvez la trouver sur Internet, vous l'aurez, et elle est assez édifiante, parce que ça laisse de gros troubles, et ça, il faut s'en saisir et ne pas regarder l'épidémie comme elle est aujourd'hui. Il faut vraiment la prendre par le corps. Mais on fait comme on peut, mais on voit qu'on est complètement à la ramasse. Comme on disait, moi, quand dans mon travail, on disait des ambitions américaines avec des moyens africains. Voilà. Ouais. Aujourd'hui,
Frédéric, alors, par rapport à la jeunesse, que vous dites, les jeunes, vous pensez plus aux enfants et les masques, c'est ça, des conséquences.
Oui, oui. Bien sûr, mon enfant, il a 16 ans. Il a 16 ans, il a un bac pro mécanique moto. Il a 25% de cours en moins. Parce qu'il y a des profs qui sont soit contact, soit ci, soit là. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a 17% de son... J'ai eu son proviseur adjoint. 17% des élèves l'année dernière, au premier confinement, ils ne sont pas revenus en cours.
Ouais. Ah, ils ne sont pas revenus.
Ils ne sont pas revenus. Ouais. Et là, aujourd'hui, il a peur. Mmh. Si on refait un confinement, en fait, total, et bien là, il me dit c'est normal.
Ce sont
des filières qui sont très porteuses. Donc,
Moi,
j'ai vraiment une inquiétude et elle n'est pas vraiment assez relevée pour moi parce que, ok, effectivement, on voit l'épidémie qui fait des morts, mais des comorbidités. Alors, on prend la comorbidité pour les vaccins, mais pas pour les morts du Covid. Bon, bref, malheureusement, on peut dire que ça tue majoritairement des personnes qui sont âgées.
Aujourd'hui, on a massacré
une jeunesse pour des gens qui vont mourir dans les années qui suivent.
C'est-à-dire qu'on pourrait sans doute renforcer des protocoles pour essayer de continuer une certaine vie. Allez, on va continuer dans un instant justement. Merci Frédéric Dugard pour votre appel 0826 300 300. Dans un instant, direction la montagne avec le directeur de la station de ski de Peyragudes dans les Hautes-Pyrénées. Et puis ensuite, la nouvelle histoire de l'ultra-gauche. Mmh. Alors là, c'est assez édifiant cette enquête de Christophe Bourseiller qui sera avec nous tout à l'heure à 9h15.
Restez avec nous.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h06, merci d'être avec nous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Dans un instant, on reviendra sur la
nouvelle histoire de l'ultra-gauche avec Christophe Bourseiller. C'est un peu tout ce qui est en train de se passer. On pensait que l'ultra-gauche, c'est une mouvance qui est à gauche de l'extrême-gauche, qui est quand même assez radicale. On pensait il y a quelques années que finalement, elle n'avait plus d'existence. Et on a vu, à travers notamment les ZAD, à travers en fait un certain nombre d'actions, qu'elle est là, elle est très présente et elle s'intensifie et elle s'impose. On verra ça avec Christophe Bourseiller et vous pourrez d'ailleurs dialoguer avec nous et nous appeler au 0826 300 300.
En attendant, on vous emmène dans les Hautes-Pyrénées avec Laurent Garcia qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la station de ski Peyragudes, justement dans les Hautes-Pyrénées.
Oui, Laurent Garcia, on avait beaucoup échangé il y a quelques semaines parce que vous espériez pouvoir ouvrir en février, après déjà le premier coup de massue en décembre. Là, ce matin, depuis quelques jours, il n'y avait plus de suspense. Vous espériez encore quand même ouvrir ou pas? Les remontées mécaniques, je parle.
Non, pour être très honnête avec vous, l'annonce d'hier n'est pas une surprise. Nous étions préparés à cette éventualité et quasiment convaincus que nous n'aurions pas de signal d'ouverture possible pour ces vacances de février.
Oui, les vacances de février, grosso modo, c'est 40% à peu près du chiffre d'affaires pour vous, pour les remontées mécaniques de l'année, c'est ça?
Oui, ça peut être même plus. Ça peut être pour des stations plus petites, ça peut être jusqu'à même 60% et au-delà pour celles qui ferment début mars et qui ont des saisons plus courtes. Nous, ça représente quand même de l'ordre de 50%. Donc, à considérer qu'on a déjà perdu 25% sur les vacances le mois de décembre, 10% en janvier, il reste plus grand chose à faire de cette saison, donc nous considérons que la saison sera blanche et que nous sommes fermés définitivement jusqu'en début d'hiver prochain.
Alors pour les remontées mécaniques, donc très concrètement, alors tous les gens qui travaillaient dans la station autour des remontées, autour de l'ensemble des activités, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bénéficier quand même d'aide, de plans de soutien ou pas?
Alors, le plan de soutien semble concerner l'ensemble des professionnels qui migrent et qui travaillent dans l'écosystème de la montagne en hiver. Donc, ce sont les exploitants que je représente ici ce matin à votre micro, mais ce sont également les socioprofessionnels, que ce soit des moniteurs de ski, des commerçants, que ce soit des responsables de supermarchés ou autres. Tout l'écosystème qui vit autour de la montagne est normalement éligible au dispositif. Maintenant, il faut que ce dispositif soit plus renforcé, parce que la façon dont il était abordé il y a quelques semaines, ça n'est pas suffisant et nous demandons d'aller au-delà de ce qui a été proposé.
Oui, c'est ça. De l'autre côté des Pyrénées, là, en Espagne, il y avait des stations d'ouvertes, elles vont fermer ou pas? Ça va être la même chose que vous?
On est quand même surpris de cet alignement européen appelé des vœux du président qui souhaitait avoir une position unique. Ce n'est pas le cas, puisqu'en Espagne, effectivement, des stations sont ouvertes. C'est le cas près de chez nous, à Baquera. C'est le cas ici, un peu plus dans d'autres stations espagnoles. C'est le cas aussi en Autriche, où des stations ouvertes. Donc, effectivement, c'est possible de respecter un protocole sanitaire. Ça n'a pas été le choix du gouvernement français. On le regrette. Mais en tout cas, c'est compliqué, je pense, pour les Français qui le souhaitent, même s'il y en a qui vont skier dans les États voisins.
Ouais. Qu'ils vous ont dit? Hier, il y avait une visioconférence. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quoi? On applique le principe de précaution maximum pour éviter que les gens ne se déplacent parce qu'ils craignent des clusters? Parce que vous êtes quand même des professionnels. Vous savez gérer les files d'attente, vous aviez mis des protocoles sanitaires en place quand même.
Oui, on s'est bien entendu gérer les files d'attente, on sait même les éviter avec des réservations par internet, des forfaits saison, etc. On a des systèmes aujourd'hui digitalisés qui permettent vraiment d'être en totale conformité par rapport aux protocoles prescrits par l'État français. Maintenant, je crois que ce qui est montré du doigt, c'est le mouvement des populations, mais force est de constater que ce mouvement-là, il existe tous les jours dans les grands centres urbains, dans les transports publics qui restent ouverts, sauf les nôtres qui sont fermés, et puis même les mouvements d'avions qui existent, etc. Donc on ne comprend pas pourquoi on peut se déplacer, rester 8 heures dans un avion pour aller en Guadeloupe, mais on ne pourrait pas venir dans une voiture et passer un séjour en montagne. Donc,
ah bah oui, non mais c'est, voilà. si on vous interdit effectivement d'aller à la montagne, je pense qu'on va interdire de prendre l'avion pour aller passer des vacances au soleil à l'autre bout de la planète. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi, non?
Ben, ça n'a pas de sens, mais aujourd'hui, on ne dit pas que les gens ne vont pas aller en montagne. On dit que le tourisme d'hiver avec le ski est sacrifié. Donc
Voilà. Et Laurent Garcia, est-ce que vous pensez quand même, sauf s'il y a un reconfinement, et ce qui est possible en février, mais s'il n'y avait pas de reconfinement, vous pensez qu'il y aura beaucoup de monde à venir quand même respirer l'air pur de la montagne, profiter de randonnée autrement, quoi. Plus le même ski, mais en profiter différemment?
On pense aujourd'hui, on a quand même travaillé ces dernières semaines à améliorer l'offre que nous avions mise en place pour les vacances de Noël, étant quasiment convaincu qu'on n'ouvrirait pas dans les conditions normales. Donc on pense bien entendu à tous ces vacanciers qui se sont dit que la montagne, c'est quand même l'air pur d'abord, vous l'avez dit. C'était une valeur refuge tout ce printemps et tout l'été dernier. Et maintenant, c'est la bête noire du tourisme français. On a du mal à l'accepter. Maintenant, on va tout faire pour honorer la présence des vacanciers qui, à cette époque de l'année, n'ont pas non plus tant de possibilités de déplacement. Ça reste quand même assez magique d'être, comme le disait tout à l'heure votre présentateur de la météo, on a des conditions météo fabuleuses, il fait beau, les ciels sont étoilés la nuit, on peut se balader dehors, donc on va tout mettre en place pour honorer ces vacances, faire profiter de la montagne différemment. Et puis continuer à exploiter comme on le peut ici à Peyragudes la télécabine qui permet de partir sur des itinéraires de randonnée, un peu les espaces débutants avec les tapis.
Ah oui, la télécabine fonctionne, elle va continuer de fonctionner.
Voilà. Donc bien entendu, on le fait par respect pour nos vacanciers. On travaille la fidélisation depuis des années, on ne va pas leur tourner le dos en disant écoutez, cette année on ne sera pas là, on va essayer de faire du mieux possible avec les quelques salariés, avec quelques socioprofessionnels qui veulent aussi contribuer à ces vacances. Et puis, on va préparer maintenant le printemps, l'été prochain. Ouais. Mais vraiment, nous aurons besoin de ça. Et vous l'avez dit aussi, à juste titre, il va falloir que le gouvernement revoie la copie pour nous aider dans des conditions à la hauteur du préjudice qui est le nôtre.
Ouais. Merci. Hein. Bon courage, Laurent Garcia, directeur de la station de ski de Peyragudes et dans les Hautes-Pyrénées. Et puis, on va suivre pour voir ce qui va se passer en février. Parce qu'il est possible qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui aillent à la montagne. Et certains ne vont peut-être pas annuler pour aller en profiter, sauf que il peut y avoir aussi du reconfinement. Tout dépend aussi de la contamination, de la propagation des virus. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails.
En tout cas,
vous connaissez
moi, je
la chanson.
J'ai hâte d'y retourner.
Ah bah complètement. Ah bah moi j'y vais. Allez, je vous laisse.
Non, restez avec nous parce que dans quelques instants, Christophe Bourseiller sera avec nous, un journaliste, écrivain, auteur de ce livre Nouvelle Histoire de l'ultra gauche aux éditions du Cerf. On vous expliquera d'où ça vient et quelle est la différence avec l'extrême gauche.
Et vous savez quoi, votre boss c'est qui? C'est l'univers.
Absolument.
C'est Muriel Siron qui l'écrit et qui sera aussi avec nous tout à l'heure à 10h-10. Intéressant.
Mais vous allez voir qu'il va vous envoyer du positif, lui. Restez là, 9h15.